existe près des écluses. Un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fang. J'aimais des châles étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit, puis au matin, bonsoir, madame, l'amour s'achève avec la pluie.
Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, l'émission Vendémiaire consacrée ce soir à Elsa Triolet, sixième émission du nombre. On est dans l'année 1928 avec Maria Berlos et Jean Knopf, les membres de l'association nationale Salaette, la société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, avec qui nous menons ce projet d'évocation de l'œuvre et de la vie d'Elsa Triolet. Donc, nous arrivons à une période charnière, comme vous allez le voir en cours d'émission, dans la vie d'Elsa Triolet. Mais je donne la parole à mes invités. Bonsoir.
Bonsoir à vous tous. Bonsoir,
Jean. Pour nous dire un premier mot sur un roman récemment paru, L'assassinat d'Elsa.
Voilà. Alors, il y a une actualité qui tourne autour d'Elsa, puisque vient de sortir, je crois que c'était en juillet, un roman qui est l'œuvre d'André Rollin. André Rollin est le critique littéraire du Canard enchaîné, qui a écrit un roman policier, un polar, qui s'appelle L'assassinat d'Elsa. Alors, il imagine que c'est assez cocasse hein, comme situation. Il imagine qu'Aragon en a marre de voir les yeux d'Elsa, donc il décide de l'étouffer avec un coussin rouge venu d'Union soviétique. Et donc il bâtit tout un roman autour de ça. Alors j'avoue qu'au début, moi j'ai eu un peu de mal à entrer dedans. Puis en fait, parce que sur le plan policier, il n'y a pas vraiment de suspense, quoi, puisqu'on sait qu'Aragon a étouffé Elsa. Donc alors il écrit. Alors où ça se complique, c'est que il imagine qu'Aragon, après le décès d'Elsa, est devenu ami avec un libraire. Qui est un type un peu farfelu, notamment parce qu'il classe pas ses bouquins, donc on peut pas trouver les bouquins dans sa librairie. Et Aragon décide d'écrire une nouvelle qui s'appelle Le Coussin, et il la dicte à ce libraire qui s'appelle Pascal Quentin. Et le livre sortira avec Pascal Quentin. Mais il y a évidemment un meurtre à la clé, c'est que l'éditeur qui doit sortir le bouquin, un certain Tâton, on le trouve étouffé avec les pages du manuscrit, donc jamais personne ne lira cette nouvelle, Le Coussin. Et alors, au milieu de tout ça, il y a un pauvre inspecteur de police, un dénommé Michel Loire, qui est l'inspecteur un peu déprimé, hein, comme on voit dans le Néopolar. Bon, c'est plus l'inspecteur qui roule les mécaniques. Et alors, il a une fille qui est une sorte de Zazie, un peu curieuse, qui va fouiller dans la librairie parce qu'elle habite en face. Et depuis leur fenêtre, elle guette les faits et gestes du libraire. Voilà, alors donc, ça rebondit. Alors, ce qu'il y a quand même de très intéressant dans ce livre, je trouve, c'est l'écriture. Parce qu'en même temps, c'est une écriture très aragonienne qui déconstruit en permanence le récit. Alors, je vais vous lire un petit extrait, là, pour vous donner envie de le lire, bien sûr. Comment vont se dérouler les événements, hein? On est quand même à la page 101, et il se repose la question, on vient quasiment au début. Comment vont se dérouler les événements? L'assassinat d'Ernest Tâton. Ernest Tâton, c'est l'éditeur, hein, qui a été retrouvé mort. Le suicide de Patrice Quentin, parce que le libraire, il finit par se suicider. La folie d'André Michaloir, c'est l'inspecteur de police qui devient fou, hein. Donc, il interroge tout ça. Ne rien révéler. Un peu de suspense, tout de même. Et en fait, du suspense, c'est vrai qu'il n'y en a pas, en fait, dans le bouquin. Donc, c'est en permanence remis en question, hein. Il faut avancer lentement dans un roman. Ne rien brusquer. Prendre des chemins de traverse. Se perdre dans les hautes herbes. Non loin de fauves à l'affût. Des singes hurleurs, etc. Donc, il remet... en permanence, il re-questionne le... Il re-questionne en permanence son propre récit. Et à l'appui, parce que l'auteur connaît quand même bien l'œuvre d'Aragon, il s'appuie énormément sur le roman qui est peut-être le plus moderne dans l'écriture d'Aragon, au sens du nouveau roman, c'est Blanche ou l'oubli. Ou en permanence, justement, Blanche ou l'oubli, qui est quand même un roman... où, par exemple, Aragon va se demander, après tout ce qu'il a écrit, s'il aime Elsa et si Elsa l'aime, quoi. Donc, c'est vraiment un roman bilan terrible, quoi, sur la réalité de cet amour, qu'est-ce qu'il est. Et je pense que ça vaut la peine de le lire, quoi. Hein. Alors, donc, je rappelle le titre, il s'appelle « L'assassinat d'Elsa ». Et... il a donc été édité au Cherche Midi, hein, c'est un petit éditeur, au Cherche Midi, et il vaut 16 euros. Voilà, hein, il fait exactement 157 pages, donc ça se lit bien, quoi. Hein, c'est pas... Et voilà, puis c'est original, quoi.
Et maintenant, on va faire le grand écart de André Rollin à Marc Chadoun.
Voilà.
Oui, avant de parler peut-être de Marc Chadourne, ce qu'on peut dire pour les auditeurs, c'est rappeler un petit peu où en était Elsa avant qu'on en arrive les années, un tout petit peu avant 1928. Alors, on se rappelle, elle avait séjourné à Berlin, où là, il y avait quand même pas mal d'intellectuels russes qui s'étaient installés, dont Maxime Gorky, qui va la convaincre d'écrire. Alors, Elsa va s'installer à Paris, à Montparnasse et elle fréquente bien sûr là les artistes de l'époque. Elle retrouve également Maïakovski, bien sûr, qui effectue plusieurs séjours à Paris et on a lu d'ailleurs des textes dont il avait écrit à propos de Paris. Et elle l'aide aussi à traduire un petit peu, hein, aussi bien dans avec ses amis que certains écrits. Et donc ensuite, elle voudrait repartir à Moscou. Elle doit préparer ce voyage, mais au fond, elle est écartelée. Elle ne sait pas bien si elle retourne chez elle ou si elle s'installe à Paris. Du coup, c'est Paris qui va l'emporter. Hein. Et là, elle va traverser quand même une période qui est difficile parce que quand on est entre deux, c'est toujours instable. Et elle écrit d'ailleurs dans son journal du 10 juin 1925. Je suis usée jusqu'à la corde, c'est dire. À ce moment-là, elle a une courte liaison avec l'auteur dramatique Roger Vitrac, auteur de Victor ou Les enfants au pouvoir, et puis on avait su avec Marcel Duchamp.
Oui, c'est juste avant de rencontrer Aragon.
Juste avant.
28, hein, oui. Septembre-octobre 28.
Tout à fait. Et par contre, elle a tenu compte de cette fameuse écriture à laquelle il fallait qu'elle s'attelle. Et elle a pu avoir le temps, avant de rencontrer Aragon, d'écrire à Tahiti ou Fraise des Bois, qui paraît en 1926. Et puis Camouflage, pardon, son dernier roman, écrit toujours en russe, qui lui va paraître en 1928.
Oui, et seulement en 1974, oui. En traduction française, c'est Aragon qui, après donc, la mort d'Elsa, donc après 70, le fait traduire par Léon Robel. Et d'ailleurs, dans l'œuvre romanesque complète, il est au tome 40, il y a 42, hein, comme c'est chronologique. Et il sera préfacé, Elsa ne le lira jamais, mais la préface d'Aragon. Mais c'est très autobiographique. Hein, comme,
oui. Et donc là, pendant qu'elle écrit, elle vit quand même un amour qui a été important pour elle.
Oui, alors avec un dénommé Marc Chadourne, on va en dire deux mots, parce que je pense qu'il est quand même un petit peu passé dans les oubliettes de l'histoire. Mais quand on consulte Wikipédia, par exemple, on trouve quand même, par exemple, il a quand même reçu en 1950 le Grand Prix de littérature de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est vrai que c'est quand même pas n'importe qui reçoit ça. Alors, il est né en 1895, donc il a un an de plus qu'Elsa, à Brive-la-Gaillarde, et il est décédé le 30 janvier 1975 à Cagnes-sur-Mer. Et en 1930, donc après sa liaison avec Elsa, il va recevoir le prix Femina pour un roman qui s'appelle « Cécile de la folie ». Je ne l'ai pas lu, hein, je ne peux pas vous en dire plus. D'ailleurs, nous, on parlera plus d'un roman où il est question d'Elsa, qui s'intitule Vasco. Et alors ce Marc Chadourne, il n'est pas à confondre avec quelqu'un dont le nom est voisin, qui était d'ailleurs la grande admiration de François Mitterrand. C'est Jacques Chardonne, qui était un écrivain charentais. C'est vrai que les deux noms peuvent... porter à confusion. Et donc ce Marc Chadourne dans les années 20, c'est un écrivain qui a du succès. D'ailleurs, on va le retrouver, on a un court portrait de lui transposé dans une nouvelle d'Elsa, où effectivement on voit c'est un bel âtre, un homme à succès, des succès faciles, bonne bourgeoisie, etc. Voilà, alors ce qui est important en ce qui concerne Elsa, c'est quand même ce qu'elle va écrire dans son journal le 16 mai 1925, hein, où elle dit « Un amour heureux, merveilleux, m'est advenu. Ce bonheur m'a été donné comme la meilleure part de ma vie, si pauvre en bonheur, pour me faire voir ce que c'est et emplir ma vie, non de regrets, mais de reconnaissance. » Et là, c'est quand même quelque chose de très fort. Or, le problème... c'est que ce bonheur va être très éphémère parce que Chadourne est fonctionnaire international, hein, il s'en va tout le temps, et notamment à l'autre bout du monde, et notamment en Polynésie, là où Elsa a séjourné avec André Triolet. Et c'est pour ça que quelques jours après cet aveu donc de bonheur, elle dit, il m'a donné sa leçon, expliqué les choses et m'a abandonné à une solitude complète. Donc en fait, ça va être une liaison non suivie, hein, puisque lui est absent en permanence. On trouve des phrases dans son journal, parce qu'à l'époque, hein, jusqu'à la rencontre avec Aragon, Elsa tient très fidèlement son journal. Après, ça va être beaucoup moins régulier, puis on le retrouvera à la fin des années 30, où là, elle va s'y appliquer à nouveau. Mais, par exemple, elle écrit le 10 juin 1925, donc quelques temps après, « Marc, mon chéri, je veux être près de toi. Quand tu es là, tout devient pur, merveilleusement doux. » C'est quand même des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire sous sa plume, où elle est toujours en permanence désespérée, etc. Alors, il y a également une autre chose qu'on va retrouver, parce qu'on l'avait déjà rencontrée avec Zoé, ce livre qu'elle avait écrit en complicité, en duo avec Schlowski, où c'était donc un échange de lettres. Hein, je rappelle, c'était à Troisième Héloïse, en référence donc aux lettres d'Abélard Héloïse et puis surtout à Nouvelle Héloïse de Rousseau. Et cette idée de croiser les œuvres avec Chadourne, il va y avoir un croisement d'œuvres, puisque Elsa dans Camouflage a deux personnages principaux et Chadourne dans Vasco va avoir deux personnages, deux doubles également, c'est Vasco et un autre personnage s'appelle Philippe.
Et chez Elsa Triolet, ce sont deux femmes.
Et chez Elsa Triolet, ce sont deux femmes dans Camouflage, chez elle et sa sœur, mais enfin, ou un double, quoi. Il y a un petit peu ce thème du double. Et puis, on trouvera plus tard, là, on en lira un extrait, dans un recueil de nouvelles qui est paru postérieurement, hein, puisque c'était pendant la guerre, qui s'appelle « Mille regrets ». Il y a une nouvelle qui s'appelle « Henri Castella ». Et d'après tous les critiques, Henri Castella, c'est Chadourne. Écrivain à succès, etc., et qui surtout, ça va être le gros reproche, au moment de la guerre, choisit les États-Unis. Mais il y a tout de même une ombre au tableau, c'est ce que Chadourne dans Vasco écrit quand même quelque chose d'un peu surprenant et qui évoque Elsa, hein, sur une juive russe.
Je vais le lire.
Oui.
Alors. Il écrit ceci, une juive russe que j'avais un soir ramenée du dôme. 20 ans, pas laide, belle même, mais disgracieuse, gracile, avec des jambes lourdes, tendre avec maladresse, des yeux méchants d'inquiétude dans une figure de chagrin. Un peu voûtée, un air esclave et rancunier de porteuse de fardeau pour juif errant. C'est vrai que c'est dur comme description.
Ça, c'est dur. Hein. Et puis, il ajoute « tapis dans ses jalousies, ses rages d'amour et ses accès nerveux ». C'est quand même
c'est vraiment un sacré portrait oui.
Mais enfin, on va voir dans Henri Castella qu'en fait, elle lui rend bien, quoi, quand même. Hein. Alors bon, cette relation, bon, donc, elle est très intermittente, hein, puisque lui est régulièrement absent. Enfin, elle a quand même gardé toutes ses lettres. Hein. Après son décès, elles ont été retrouvées au moulin, ce qui est un peu exceptionnel parce que Aragon n'a pas voulu que les lettres antérieures à lui d'Elsa soient conservées. Enfin, celle-là, je ne sais pas par quel miracle ont été retrouvées. Alors, elle écrira quand même pour en finir avec cette relation, enfin ce qu'on sait de cette relation. Elle écrira quand même dans son journal au 22 septembre 1928, donc c'est peu de temps avant la rencontre avec Aragon. Elle dit « Ou bien j'ai été aimé, ou bien j'aimais, mais les deux ensemble, jamais. » Et elle ajoute « À part l'Africain, donc c'est Chadourne, puisqu'il se balade beaucoup sur le continent africain, qui m'a peut-être aimé comme je l'ai aimé. D'ailleurs, c'est le seul homme que j'ai jamais aimé, et je lui dois pour cela une reconnaissance éternelle, car sans lui, je serais morte. »
C'était quand même un grand amour.
Oui, oui, c'était un grand amour. Puis c'est vrai que c'est quand même au milieu de ces années, enfin on verra que chez Aragon c'est un peu la même chose, de ma lettre absolue, quoi. Voilà, alors dans Camouflage, on a dit qu'il y a deux personnages comme lui dans Vasco. Dans Camouflage, quand on lit ce roman, enfin bon, c'est pas vraiment un roman, hein, c'est plus autobiographique, et il apparaît sous le nom d'un personnage qui s'appelle Conrad. Mais surtout, on le retrouve donc dans Mille Regrets, hein, Mille Regrets, où il y a une nouvelle qui s'appelle Henri Castella. Et Henri Castella, c'est en fait le modèle, c'est Chadourne. Alors, avec cette caractéristique, c'est que cet homme est dominé par une mère abusive. Et elle rapporte, alors toujours dans le journal, on est au 15 juin 1926, voilà ce qu'elle écrit, Maerten, donc c'est un des amis de la bande, oui, m'a rapporté que la mère de Marc avait dit qu'elle espérait que son fils ne m'aimait pas trop fort. Pourquoi ? Lui serais-je à ce point antipathique, suspecte ? J'ai ressenti sur le champ un froid physique et un état d'âme abject. Voilà, donc Elsa est pas très bien acceptée. Mais alors, si on passe à Mille Regrets, alors évidemment, c'est une fiction, hein. Les modèles dont on sert dans une fiction, bon, il y a toujours une part de créativité, hein, c'est quand même différent d'un journal, mais souvent la fiction est Marx qui disait qu'il vaut mieux lire Balzac que lire des romans d'histoire pour comprendre le 19e, hein, et ça, moi, j'en suis absolument convaincu. Dans les romans, on trouve beaucoup plus de... Alors,
Elsa va faire un portrait oui, qui va correspondre au fond. C'est celui de Henri Castella dans son roman, mais il va correspondre à celui de Marc Chadourne. Alors, si tout à l'heure, il écrivait quelques lignes à propos d'une juive, là, Elsa, je pense qu'elle va faire une description de ce fameux Marc qui n'est pas... mal non plus. Henri était habitué au succès facile. Sa littérature excusait le goût naturel que les femmes avaient pour son physique de bellâtre. Sans compter la majorité qui ne savait rien de sa littérature, mais par contre appréciait son physique, parce qu'il était appréciable. Au moment de la guerre, le personnage central choisit de s'exiler à New York. « Je me barre. De toute façon, je ne sers pas là, ni pour la victoire, ni pour la défaite. » À la veille de la guerre, Chadourne émigre aux États-Unis où il enseignera. Dans la fiction, une lettre d'Annabelle, ancienne maîtresse d'Henri Castella, dresse un portrait sans concession de cette fuite aux États-Unis. Pour appeler les choses par leur nom, c'est un lâche. Trop lâche pour aimer, trop lâche pour créer, trop lâche pour défendre sa peau autrement qu'en fuyant. Voilà que la peur l'a rendu devin. Il voit la guerre et fiche le camp en Amérique pour lui échapper.
Alors ça, c'est... On retrouve d'ailleurs chez Elsa, et ça on en parlera quand on arrivera à la période de la guerre, ce mépris qu'elle a eu pour tous ces gens, dont un certain nombre de surréalistes d'ailleurs, qui ont choisi bon l'émigration aux États-Unis ou en Amérique centrale, et ça c'est quelque chose qu'elle pardonnait absolument pas. Bon, pour apporter quand même un point positif, elle dira à Aragon, Chadourne, c'est l'amour d'avant toi. Donc c'est quand même bon, ça a été un véritable amour, malgré bon ben ce que les êtres deviennent, hein, c'est aussi voilà, hein, ça fait partie de la vie mais ça a été quelque chose d'important. Alors je crois qu'on va en arriver maintenant à la fameuse au fameux
Puerta 6 novembre. Del Sol.
Et donc
oui, on va faire une courte introduction. Donc, on va en arriver à la rencontre Louis Aragon et Elsa Triolet. Et, bon, on va commenter tout ça. Enfin, Jean et Maria vont commenter tout ça. Le document que je vais vous faire entendre, c'est un extrait de notre émission, ici même en direct, le 3 avril 2000, 14 ans, un peu plus en arrière, où Jean Albertini lisait un texte, Puerta del Sol d'Aragon, qui évoque l'état d'esprit dans lequel il se trouvait après sa rupture avec Nan, et puis nous enchaînerons avec la chanson « Il n'aurait fallu », qui n'est pas sans rapport avec la situation, comme vous allez le comprendre, et nous vous commenterons tout ça ensuite.
Rien ne ressemble plus à rien, ni à personne. Il est passé le temps perçant, le temps percé, le temps des persiennes rayant blond les réveils, le sang bat bleu, l'homme à la tempe. Oh, ma tempête, ma blessure, j'ai tout quitté pour toi comme un par-dessus, tout, sans regarder s'il tombe, et j'ai mis dans tes pas mes pas. J'aime par-dessus tout t'entendre entre mes bras gémir, on dirait le vent dans la forêt. Je suis parti de ma vie à la tienne, j'attends l'heure où tu plies sous le poids d'aimer. Il n'y a plus ni jour ni nuit, nulle autre saison que d'ouvrir le grand lit de notre folie, nulle autre raison que d'être, de notre raison d'être que t'attendre. Aucun mot pourtant n'est plus terrible entre mes dents que l'attente. Et le diable sait où tu es, cela me tue, attendre. Je tends les muscles de ma mémoire, et je regarde encore une fois ton absence, à tous les retours des rues, sans nom pour moi, des rues nues, de souvenirs, rues de rencontres, rues de tout ce qui n'est pas soudain devenu.
Moment de plus pour que la mort vienne, mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne. Qui donc a rendu leur couleur perdue aux jours, aux semaines, sa réalité à l'immensité des choses humaines. Moi qui frémissais toujours, je ne sais de quelle colère. Deux bras ont suffi pour faire à ma vie un grand collier d'air. Rien qu'un mouvement, ce geste en dormant, léger qui me frôle. Un souffle posé, moi, une rosée contre mon épaule. Un front qui s'appuie à moi dans la nuit, de grands yeux ouverts. Et tout m'a semblé comme un champ de blé dans cet univers. Un tendre jardin dans l'herbe où soudain la verveine pousse. Et mon cœur défunt renaît au parfum qui fait l'ombre douce. Il n'aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue alors est venue qui a pris la mienne.
Louis Aragon pour les paroles, bien sûr, et Léo Ferré pour la musique, l'interprétation de Monique Morelli. Je vous laisse commenter ces deux documents et la suite.
Oui, alors, à propos du chant de la Puerta del Sol, bon, Jean ne pouvait pas le savoir en 2000. En 1974, le Livre Club d'Itro a édité l'œuvre poétique complet. Au masculin, hein. Aragon tenait à ce que ce soit pas l'œuvre poétique complète, mais complet. Donc, en 1928, est apparu ce poème que personne ne connaissait. Et il a écrit, j'ai vérifié moi dans mon édition, il a écrit janvier 1928, point d'interrogation. Alors bon, les universitaires, évidemment, sont penchés là-dessus, parce que ce poème est magnifique. C'est un des plus beaux poèmes d'amour d'Aragon. C'est extraordinaire. Puis en même temps, avec un recul par rapport à l'événement qu'à mon avis, il pouvait pas avoir en 1928. Et peu à peu a germé l'hypothèse que peut-être il l'avait écrit en 1974. Alors ce qu'il dit, parce que quand même Aragon pour l'entourloupe, hein, il était très fort. Hein, et il dit, mais c'est un poème, je l'ai peut-être pas fini, je l'ai complété, je l'ai bricolé, sauf que il a donné tous ses papiers, ceux d'Elsa, donc au fond Aragon, Elsa Triolet, et on a nulle trace de ce texte, sauf 1974. Et donc, dans la Pléiade, que Jean, d'ailleurs, parce qu'il m'en parlait souvent de cette œuvre poétique complète dans la Pléiade, et elle est parue, d'ailleurs, l'année de sa mort, en 2007, donc à quelques mois près, je pense qu'il n'a pas eu le temps de l'étudier. Mais Olivier Barbaran, qui a dirigé cette édition, bon, c'est un fait acquis que le poème a été écrit en 1974. C'est vrai que je l'ai relu là, à l'occasion de cette émission. C'est un des plus beaux textes d'amour d'Aragon, quoi. Hein, ça, c'est certain. Bon, il n'aurait fallu, bah, comme l'étrangère, hein, puisque Léo Ferré a puisé, je crois, la totalité des textes qui sont dans son disque, dans le roman inachevé. Donc, il y a ce texte de 1956 où Aragon, revient sur toute sa vie, hein. C'est un poème autobiographique. Bon, il n'aurait fallu, bon, c'est une chanson connue, hein, qui est devenue populaire. Mais ce qu'on perçoit pas forcément, c'est cette inventivité poétique d'Aragon, hein, puisque on a quand même des vers, ce qu'on appelle des pentasyllabes, c'est-à-dire des vers de 5 pieds, hein, et les vers impairs, c'est des vers, bon, dans la tradition classique, hein, c'est toujours les vers pairs qui dominent. Et il y a toujours cette recherche, parce que parfois on entend dire, oh, Aragon, c'est un poète classique, sauf que c'est un poète qui innove en permanence, quoi. Et les classiques, c'est pas évident, mm-hmm. c'est pas l'image qu'on a du classique, hein, Et donc, bon, il est composé de 6 ains, donc des strophes de 6 pieds. Et donc, on en arrive à ce fameux.
De 6 vers.
De 6 vers, oui, pardon. Cette partie, là, dans la biographie de Lily Marcoux sur Elsa, il y a une expression que je trouve qui correspond bien, c'est la rencontre de 2 naufragés. Et je trouve que c'est exactement
oui,
ça.
Ça résume, hein. Voilà. L'époque.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux dates, hein. Il y a le 5 novembre et le 6 novembre. Alors, le 5 novembre, c'est la rencontre entre Aragon et Mayakovsky.
À la coupole.
Les deux rencontres ont lieu à la coupole, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, dans le 14e, bon. Donc, ma foi, sur la rencontre Aragon-Mayakovsky, on sait guère... Mayakovsky est quand même un personnage emblématique de la Révolution. Et puis, en plus, c'est un personnage qui est tellement folklorique que c'est une star dans Paris, quoi. Hein, puis, il déclame ses vers. Enfin, bon, ça, on l'a déjà dit. Et d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, bon, finalement, quand même, à Paris, à part les Russes émigrés, mais qui sont des Russes blancs, donc qui n'aiment pas forcément Mayakovsky. Il n'y a quand même pas énormément de monde qui parle russe, mais il fait quand même un tabac, quoi. Les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais il est tellement spectaculaire dans les cafés que les gens le trouvent formidable. Aragon le rencontre. Je ne sais pas d'ailleurs précisément qui il traduit, parce qu'à l'époque, Aragon ne parle pas russe. Mayakovsky ne parle pas le français. Il ne parle que le triolet, hein, comme
oui,
on a. Mais comme Elsa n'est pas là. Mais par contre, le 6, donc Elsa, qui a lu Le Paysan de Paris, tient à tout prix à rencontrer Aragon. Elle est fascinée par Aragon. Et elle arrange un rendez-vous. Et il y a un témoin de ce rendez-vous, c'est leur ami...
Vladimir Posner,
qui est un russe d'origine, qui va d'ailleurs ensuite s'installer à Paris, puis qui restera ami avec le couple, hein, à l'époque, il connaît qu'Elsa. Et donc, bon, ben, il nous donne quelques témoignages, puisque la société Aragon a, a édité un petit bouquin qui est une reprise d'un autre livre de plus vaste sur d'autres personnages. On a édité un petit bouquin, une petite plaquette sur ses rencontres avec Elsa et Aragon. Voilà, donc c'est tiré de ça. Alors bon, bah, il donne des, c'est anecdotique, hein. J'étais libre, Elsa voulait que je l'accompagne dans la boîte de nuit du boulevard Montparnasse. Alors elle lui a dit, Aragon y sera, sans préciser si elle avait rendez-vous. Ni par qui elle avait été mise au courant de sa présence. Pour lui-même, mais pour quoi faire ? Donc Posner, c'est pas trop ce qu'il fait là. Bon, il fait un peu le... et il l'accompagne. Et mais elle lui dit quand même, au bout d'un moment, elle lui dit, bon, si ça dure, tu t'en iras discrètement. Et donc voilà, voilà comment ça s'est passé. Bon, alors bon, tout ça, c'est, puis on a beaucoup brodé autour de ça. Bon, ça fait partie un peu de la légende. Bon, ce qu'on sait de source sûre, puisque c'est confirmé par, enfin par Aragon, on sait donc qu'ils ont passé la nuit ensemble, donc à l'hôtel Istria, où Elsa occupait la chambre 12 exactement. C'est dans toutes les biographies. Et ce que raconte Aragon, c'est, alors il dit, moi j'aime bien cette réplique, je t'ai dit madame pour la seule fois de la vie. Voilà. Et ça, c'est dans la mise à mort. Donc, c'est un souvenir. Mais la mise à mort, c'est 1964. Mmh. Donc, ça va revenir.
Et puis, ce que je voudrais ajouter également, oui, c'est que Elsa, là, a 32 ans.
Elle a 32 ans, oui. Oui.
C'est quand même important. Ce ne sont plus les premiers amours russes. Mais là, c'est une femme. Et donc, la rencontre a été un moment quand même important pour elle.
Et alors... justement, le 5 novembre, donc la veille, elle note quand même dans son journal, faut que j'en finisse, faut que j'aille acheter du Véronal. Hein. Mm. Et elle est vraiment au bout du rouleau, quoi.
Oui, oui.
Et alors, c'est là où cette histoire, ben, il n'aurait fallu qu'un moment de plus, hein. Oui. Je pense que les deux vont ils sont au bout du rouleau l'un et l'autre. Alors, pour plein de raisons, bon, sans doute qu'Elsa, c'est plus pour des raisons affectives, mais Aragon, c'est aussi cette crise dont on parlera la prochaine émission, cette crise par rapport au surréalisme. C'est aussi pour ça, Aragon, il a adhéré au Parti communiste en 27. Bon, dans le surréalisme, il y a beaucoup de créations, mais il y a aussi un jeu, un amusement, bon, et puis ils arrivent pas bien à entrer quand même dans la politique. Bon, Breton, par exemple, il voudrait diriger le Parti communiste. Bon, c'est quand même difficilement envisageable, surtout, enfin, même aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, on aurait plus besoin de Breton aujourd'hui. Donc, ça va pas, c'est pas possible. Et je pense que la rencontre d'Aragon avec Majakovski, il en a besoin aussi. Je pense qu'il est à la recherche de ça. Et sans doute, bon, ben ça, on le verra plus précisément, c'est ce qu'Elsa va lui apporter. Elle va lui apporter la révolution soviétique, quoi. Tout sentiment mis à part. Hein. Et Elsa, elle va faire le lien. Lily Marcoux insiste beaucoup là-dessus dans sa biographie. Elle écrit, en fait, Aragon voulait rencontrer Majakovski et Elsa voulait connaître Aragon. Elle servira de trait d'union entre les deux poètes. Et très curieusement, j'ai remarqué en réfléchissant à l'émission prochaine que Majakovski se suicide et Aragon, finalement, à sa manière, prend le relais dans son écriture et dans sa recherche d'une expression et littéraire et politique, qui va d'ailleurs lui être beaucoup reprochée, notamment dans ses relations au Parti communiste. Alors on peut peut-être dire deux mots quand même de bon, on a parlé donc d'Elsa qui va mal, mais Aragon, on peut peut-être quand même rappeler.
Bien
donc,
sûr, si on dit deux naufragés, on voilà. Peut quand même dire un petit peu réfléchir et expliquer un peu dans quel état il était. Alors Aragon, lui, également a tenté de se suicider. Il faut dire qu'à ce moment-là, il entretenait une relation tumultueuse avec Nancy Cunard, qu'on appelait Nan, dont on aura peut-être l'occasion encore de répéter. Et au cours d'un voyage en Italie, les heurts se multiplient. Il y avait une crise financière, la fameuse Nan qui était très libre, eh bien causait des crises de jalousie à Aragon,
un pianiste de avec jazz.
De jazz, oui. Et donc tout ça, ça se passait à Venise. Et début septembre, eh ben Aragon a essayé de se suicider. Bon. Il part de là, donc le couple se sépare et il va sur Milan. Et là, il regarde la représentation, mais au moins 6 fois, la représentation de Othello de Verdi à la Scala. Il faut dire que le contenu de Othello, c'est également la jalousie.
La jalousie, hein. Oui. Et ça, ça va être un thème récurrent chez Aragon, quoi. Ouais. Ben, d'ailleurs, la mise à mort, c'est la jalousie. Enfin, on trouve ça en permanence, quoi, ce thème de la jalousie.
Et donc, il écrira quelques vers, si on a le temps, on peut peut-être les lire.
Oui, alors, ces poèmes à crier dans les ruines, j'ai vu après, mais j'ai pas eu le temps de t'en parler. Ce texte a été lu par Jean-Louis Trintignant, et je crois qu'il est passé dans les émissions avec Jean. Bon, je lis pas en entier, hein, quelques vers. Crachons, veux-tu bien, sur ce que nous avons aimé ensemble. Crachons sur l'amour, sur nos lits défaits, sur notre silence et sur les mots balbutiés. Sur les étoiles fussent-elles tes yeux, sur le soleil fut-il tes dents, sur l'éternité fut-elle ta bouche, et sur notre amour fut-il ton amour. Alors, cela dit... derrière le mythe qui a été savamment entretenu par beaucoup de gens, hein, par Aragon lui-même, enfin bon, ça a quand même été extrêmement compliqué, puisque si on se reporte au journal d'Elsa, qui est un document évidemment intéressant, donc la dernière notation, c'était le 5 novembre, avec le Véronal. Hein, donc elle pense en finir. Et alors après, on retrouve son journal le 6 décembre, donc un mois pile après le 6 novembre. Et comment commence le 6 décembre? Ça commence comme ça, « Curieux, comme le bruit de la ville change lorsque l'on est désespéré. J'ai accueilli le désespoir comme une vieille connaissance, un visiteur important. » Alors ben pour un coup de foudre, on peut pas dire que... Alors, en fait, bon, il y a plein d'anecdotes. Aragon, c'est pas dépris de Nancy, ça c'est certain. Et puis alors, entre-temps, il veut se marier. Et il a trouvé une danseuse autrichienne, Lena Amsel, qui est née en 1898. La pauvre, elle va avoir un destin tragique, puisqu'en 1929, donc un an après, elle va trouver la mort dans un accident d'automobile où elle va mourir brûlée vive. Hein, donc. Mais à cette époque, il veut l'épouser. Ça, pourquoi, on n'en sait rien. Enfin, il veut épouser Lena Amsel. Et alors, ça nous ramène à ce thème de l'étrangère, puisque quand même, il y a 3 femmes en concurrence, une anglaise, une autrichienne et une russe. Alors, je crois que tu veux...
Oui, on peut écouter une autre version.
Une autre version, oui.
Donc, l'étrangère qu'on a proposée au début d'émission prend un peu son sens par rapport aux commentaires que tu viens de faire. Oui, j'ai une autre version qui a été aussi enregistrée ici même lors d'une émission le 21 janvier 2001. C'est Jean-François Rémy qui l'interprète. C'est pas d'une perfection technique extraordinaire, mais le document est intéressant et... Il est voix et guitare et il était accompagné par 2 guitaristes, Roger Vincent à la guitare d'accompagnement et Christian Gallis à la guitare un petit peu solo qui fait un numéro assez, assez beau.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tiers humain.
bande. On s'y rentre en voiture. Ordinairement au mois d'août, ils disent la bonne aventure pour les piments et le mois d'août. On passe la nuit claire à boire. C'est demain. On rentre d'une sale traite, qui est sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin sur la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle rentrait là des raisons. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fond. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci para vite, vite, de l'odeur des magnolias, qui tombe tout de suite et comme un marque, la télia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot était promission, et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias, ça me retomba tout de suite, camarade la veilla. S'achève avec la pluie.
Voilà, donc version enregistrée en direct dans ce studio avec trois guitares et un chanteur du texte de Louis Aragon, L'étrangère, mis en musique par Léo Ferré, donc par Jean-François Rémy.
Voilà, pour terminer, on va évoquer une scène qui est la transposition dans la fiction, dans une nouvelle qu'Elsa écrira des années après, enfin dans Bonsoir Thérèse, qui s'appelle La femme au diamant. La nouvelle s'appelle La femme au diamant, et c'est la transposition d'une scène qui se déroule dans une boîte de nuit, où en réalité, Aragon, venant avec Elsa dans cette boîte de nuit, rencontre Nancy Cunard, et ben part avec elle. Voilà, et c'est une grande souffrance de la part d'Elsa, mais là on est dans la fiction avec deux personnages qui l'homme s'appelle Jean et la femme s'appelle Anne. Jean arrête la voiture dans une rue sombre et déserte. Il embrasse Anne, il bouscule son chapeau, déchire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Anne a peur.
Veux-tu qu'on rentre? Dit-elle comme on parle à un malade. Jean se remet au volant. Il conduit avec une vitesse ridicule dans ces petites rues. Anne prend son mal en patience. Jean s'arrête pile devant une boîte de nuit. Anne ne sait plus ce qu'elle doit penser de cette crise de nerfs. On était si bien. C'est ici que tu veux aller ? Tu connais cet endroit ?
Je ne connais rien du tout. Je me suis arrêté au hasard. Cela n'a aucune vraisemblance, mais cela ne fait rien. Champagne, décolleté et robe de ville, smoking et veston. Tout ça dansait. Anne avait adoré danser dans le temps. Mais maintenant, cela lui faisait une drôle d'impression. C'était une chose finie, passée.
Anne avait le cœur qui se serrait et une douleur dans le bras gauche, comme toujours lorsque ses nerfs se détraquaient. « Jean, chuchote-t-elle, fais attention, je t'en prie. C'est si fragile, le bonheur. Tu m'entends, Jean ? Un déjeuner de soleil. »«
Tu es belle. »
La lumière revient. Une femme assise à la table en face, de l'autre côté de la piste, pousse un « Oh !» et se met à faire des signes dans la direction de Jean. « C'est pour toi ?» dit Anne incrédule.
« On dirait. La femme entourée par des hommes était à moitié cachée par eux. Elle avait une robe d'or montante et une toute petite tête, des dents de cannibale. Cela devenait indécent. « Écoute, je crois que je sais ce que c'est. Tu m'excuses ?» Jean se lève. Il traverse la salle. Maintenant, il salue la dame, les hommes en habit. Il rit. Anne se sent seule et abandonnée. Visiblement, Jean sait très bien qui sont ces gens. Qu'est-ce que c'est que toute cette comédie ? Savait-il qu'il les trouverait ici ? Ridicule. Elle-même aurait pu rencontrer beaucoup de gens dont Jean n'a jamais entendu parler. D'ailleurs, la preuve. Anne, il y a des années qu'on ne s'est pas vu. C'est ce bon Georges N., avec ses oreilles décollées et ses lunettes. Oh, il est tout chauve, ce garçon, si gentil, si embêtant.
Alors, Anne, j'allais dire Thérèse, comment va votre maman ? Je suis émue de vous revoir. Il paraît que vous nagez dans le bonheur. Vous oubliez vos amis. On dit que vous avez dégoté un type extraordinaire. Une façon de demi-dieu, avec Rolls, ce qui gâte rien.
Elle avait dégoté un type extraordinaire. Voilà à quoi se réduit une vie. Les gens sont vraiment odieux. Ce qu'elle avait raison de ne voir personne, même les mieux intentionnés comme ce brave Georges.
Pourquoi un demi-dieu, dit-elle ? Vous voulez dire un dieu ? Vous le verrez d'ailleurs. Elle regarde du coin de l'œil ce que fait Jean. Il est toujours debout à l'autre table. Il parle, penché sur elle, avec la femme à la robe d'or. La femme est très agitée. Elle tourne la tête à droite et à gauche comme un oiseau. L'homme, assis à côté d'elle, un gangster mondain, écoute Jean. Il est immobile, un monument. Au debout de la table, de profil, deux hommes raides, blonds, un œillet blanc au revers de leur habit, se ressemblent. Monocle, petite brosse à dents en guise de moustache, l'arrêt dans les cheveux blonds.
Les rideaux redeviennent rouge sang. Le pianiste fait des miracles de roucoulement qui vous chatouillent au plus profond. La femme en robe d'or se lève. Jean la prend dans ses bras, il danse. Un sentiment tout nouveau, fait de stupeur, d'humiliation et de désespoir, s'empare d'Anne. Cette initiation à la jalousie est douloureuse, comme celle de l'amour. Ils passent en dansant devant sa table. Jean parle avec une animation inaccoutumée. La femme, presque aussi grande que Jean, sa petite tête penchée de côté, écoute durement, les lèvres serrées sur ses dents de cannibale.
« Alors, dit Georges, vous filez le parfait amour ?» C'est drôle de voir Anne amoureuse. Ça vous va d'ailleurs très bien. Anne a le vertige. Elle voit Jean s'incliner devant la femme. Le voilà.
Elle a beaucoup d'allure, cette femme, avec laquelle tu as dansé, dit Anne. Non, elle ne demandera pas qui c'est. Oui, c'est une créature assez étrange. D'ailleurs, tu m'excuseras, mais si Monsieur N voulait te ramener, je voudrais rester avec mes amis.
Georges, ce chevalier à la triste figure, se donne un air impassible. Anne sent le plancher bouger sous ses pieds. Mais certainement, si Anne veut de moi, je suis à sa disposition. Jamais de la vie, dit Anne. Tu n'as qu'à me mettre dans un taxi. »
Elle ne veut surtout pas rester seule avec Georges. Elle se lève. « Je suis très fatiguée. J'aime autant rentrer tout de suite. Au revoir, Georges, et merci. Téléphonez-moi donc un jour. Mille choses à votre femme. » Enfin, elle a dit tout ce qu'il fallait pour ne pas se donner en spectacle. « Bonsoir, Thérèse, » dit Georges. Elle monte dans un taxi. Jean ferme la portière, donne l'adresse. Ils ne se sont pas dit un mot. Voilà. Et c'est donc la transposition de cette fameuse soirée que... On a d'autres récits, hein, notamment André Thirion dans un livre de témoignages, bon, mais contesté par ailleurs, rapporte cette scène à laquelle lui aurait assisté. C'est peut-être lui le Georges, je ne sais pas. Mais qui est beaucoup plus dur pour Aragon, d'ailleurs.
On en reste là pour ce soir.
Oui.
Ou la prochaine fois, on parle de quoi ?
Alors, la prochaine fois, on va parler de quelque chose qui, pour Elsa, a sans doute été très douloureux, c'est sa conversion de la langue russe à la langue française, qui va aboutir, à la fin des années 30, en cachette, écrit en cachette, à son premier recueil de nouvelles qui s'appelle « Bonsoir, Thérèse ». D'où était tiré cet extrait, d'ailleurs.
Donc, bonsoir à nos auditeurs. On se quitte avec une chanson écrite par Elsa Triolet avec Guilvic sur une musique de Philippe Gérard, interprétée par Jeanne Borot. Le thème semble être en rapport avec nos propos « Aimez-moi mieux ».
Il me faudra me dire, et ça devrait suffire, que n'étant pas un louis d'or, il ne se peut que tous m'adorent. Il me faudra me dire, et ça devrait suffire, que n'étant pas je suis qu'une pièce de peu. Thank you.
Thank you.